la dernière fois à partir de l'affirmation que l'homme est un esprit incarné, qu'il est d'abord un esprit qui anime le corps. Nous avons commencé à voir les conséquences du péché originel en tant qu'il est pour nous la transmission, péché originel en tant qu'il nous atteint, et qu'il est la transmission, comme dit le catéchisme, la transmission d'une nature humaine déchue, dans un état déchu, dit le Concile de Trente, c'est-à-dire d'une nature humaine privée de la sainteté et de la justice originelle, sainteté et justice originelle qui permettent l'union à Dieu, autrement dit la connaissance intime de Dieu, puisque cette union à Dieu, comme l'enseigne là bien clairement montré saint Thomas d'Aquin, se réalise par mode de connaissance. Donc, je souligne le fait que cette connaissance, ce contact, disons plutôt, intime avec Dieu, qui est une connaissance intérieure et qui correspond à ce qu'on appelle habituellement la contemplation, cette connaissance qui vivifie l'esprit. La vie de notre esprit, c'est la connaissance de Dieu. La vie de l'esprit, c'est la vision de Dieu. Cette connaissance, donc, devait depuis l'origine être source de la lumière et de la force dont notre esprit a besoin pour animer le corps et pour diriger notre action. Nous allons essayer de préciser les conséquences du péché originel. D'abord, la première chose qu'il est important de voir, c'est qu'il n'y a pas de possibilité pour nous de vivre un état stable d'humanité qui serait comme un état naturel. Vous savez, pendant un temps, on a dit qu'il fallait d'abord devenir humain avant d'être chrétien. Mais c'est absolument impossible de devenir humain sans accueillir d'abord la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a plus d'état humain. Il n'y a qu'un état de, on peut le dire, de déchéance, au sens où la tradition de l'Église parle d'un état déchu, qui fait que où nous accueillons la grâce de Dieu, où nous sommes livrés à un état de faiblesse, mais plus que ça, enseigne l'Église, livrés aussi à l'inclination du mal, parce qu'il y a deux choses dans les conséquences du péché originel. C'est à la fois un affaiblissement de l'esprit, ce qui se comprend bien, puisque notre esprit vit de la vision de Dieu, et donc s'il est privé de cette vision de Dieu, il est affaibli, il est comme mort, mais aussi d'une inclination au mal que nous allons essayer de préciser. Mais je reviens d'abord sur le fait que notre esprit est affaibli. Écoutez le livre de la sagesse. Les pensées des mortels sont timides et instables nos réflexions. Un corps corruptible, en effet, appesantit l'âme. Et cette tente d'argile alourdit l'esprit aux multiples soucis. On peut toucher du doigt la fragilité de l'esprit depuis le péché originel, notamment au fait de l'emprise des soucis. Je voulais préparer ce cours, en tout cas méditer lundi matin, et j'ai eu un gros problème avec mon portable. Et ma matinée a été. J'ai senti que mon esprit n'arrivait pas à se concentrer à cause de ce souci. Et ça, c'est vraiment la manifestation de cet affaiblissement de l'esprit. Il n'arrive pas à se fixer dans sa pensée. Il est paralysé par l'inquiétude. Comment dire, il est comme l'Écriture dit, alourdi et quelquefois comme paralysé. Cet esprit qui, sans la lumière de la connaissance de Dieu, sans le contact avec Dieu, finalement, reste aussi, comme avait dit Jean-Paul II, prisonnier de lui-même. Jean-Paul II a cette expression, il a parlé de la raison prisonnière d'elle-même. On peut dire que depuis le péché originel, la raison est prisonnière d'elle-même, sauf ouverture à Dieu par la conversion du cœur. Mais sinon, notre raison privée de lumière, de l'ouverture à Dieu, privée de la connaissance de Dieu, a tendance donc à rester enfermée dans le raisonnement. Sans parvenir à voir vraiment les choses elles-mêmes. Je dirais que faute de s'ajuster d'abord à Dieu, notre esprit devient incapable même de s'ajuster aux choses, c'est-à-dire de les voir d'une manière juste selon leur vraie place. Il est incapable d'en discerner la vraie valeur. Et donc dans notre conduite, même si nous voulons, par exemple, dans nos relations avec les autres, nous avons une bonne intention, nous faisons l'expérience continuellement, du fait que cette bonne intention, au moment où elle veut passer à l'acte, eh bien, se heurte au réel. C'est-à-dire, nous sommes continuellement maladroits dans nos relations les uns avec les autres. Parce que nous sommes enfermés dans nos pensées et nous n'arrivons pas à voir, à nous ouvrir vraiment à la réalité, à nous ouvrir aux choses telles qu'elles sont. Et donc, découle de ça une incapacité à accomplir vraiment le bien que nous voudrions accomplir, par aveuglement. Comme ils n'ont pas jugé bon de garder la vraie connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à leur esprit sans jugement pour faire ce qui ne convient pas. On pourrait le comprendre donc du fait que d'un esprit qui n'arrive plus à tout simplement à rejoindre la réalité, à la voir vraiment, mais qui reste enfermé dans le raisonnement. Mais à cela se surajoute le pouvoir des passions sur notre esprit. Donc il y a la faiblesse de l'esprit qui perd sa capacité la plus grande, qui est celle de voir les choses vraiment, d'avoir l'intelligence intérieure des choses, faute de lumière. Mais il y a aussi l'inclination au mal, dont parle le catéchisme, l'inclination au péché, notamment donc le fait que notre chair est marquée par toutes sortes de convoitises désordonnées. Alors qu'est-ce que dit Saint Jacques? Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le leurre. On peut traduire aussi le séduit. Et Saint Thomas d'Aquin dit ainsi que la passion entraîne la raison. Ce n'est pas simplement que notre raison est prisonnière d'elle-même, ce n'est pas simplement qu'elle n'arrive pas à voir, elle sait des choses mais elle ne voit pas les choses, mais c'est aussi que notre raison est devenue comme soumise au pouvoir des passions. Nos passions nous font perdre la raison droite. Chacun est tenté par sa propre convoitise qui l'attire et le leur. Vous voyez qu'il y a l'attraction de la convoitise qui est liée au leur, c'est-à-dire à la tromperie, c'est-à-dire à l'esprit qui se laisse entraîner sur un chemin qui est contraire à la droite raison. Alors comment peut-on comprendre cette fragilité de l'esprit qui, au lieu de rester, je dirais, dans la ligne de ce qui est inscrit en lui, de la loi naturelle qui est inscrite en lui, au lieu de rester fidèle au bien, on arrive à faire des choses qui sont tout à fait contraires à la raison. Nous connaissons tous des personnes qui ont de profondes convictions morales et qui vivent le contraire de ce auquel elles adhèrent. Comment se fait-il que la raison puisse être à ce point dépendante des passions? C'est quelque chose que saint Paul souligne dans l'Épître aux Romains en disant que Dieu a livré les païens aux passions avilissantes. Ils sont donc livrés, c'est l'esprit qui est livré aux passions de la chair. L'esprit qui est fait pour animer la chair se retrouve en position, on peut dire, d'infériorité, alors même que, au fond de lui-même, il garde ce sens du bien, ce sens de la justice, ce que saint Paul exprime bien, quand il dit, vous connaissez bien ce passage, quand il dit, je trouve donc une loi s'imposant à moi quand je veux faire le bien, le mal seul se présente à moi, car je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur, de l'homme raisonnable on pourrait dire, mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres. C'est évidemment difficile de préciser cet esclavage dans lequel nous nous trouvons par rapport au péché qui est dans nos membres, au péché de la chair. Mais je reviens sur la distinction essentielle entre une raison qui sait, une raison qui a des idées et une raison qui perçoit. J'avais dit juste avant que notre esprit ne perçoit plus la vérité profonde des choses, qu'il n'arrive plus à s'ajuster aux choses. Il a des idées sur les choses, mais il ne sait pas les voir. Notre esprit, c'est un œil. Un œil qui est privé de lumière, il ne voit rien. Et donc, on est dans cette situation-là où on avance dans le brouillard, pour dire les choses simplement. En réalité, on est constamment à agir d'une manière approximative, faute de bien pouvoir tenir compte des circonstances. Et donc, je reviens sur cette distinction entre une connaissance intellectuelle et une connaissance lumineuse, une connaissance contemplative. Qu'est-ce qui fait que la raison qui sait, je vais prendre un exemple tout simple, qui sait qu'il ne faut pas voler. Qu'est-ce qui fait que cette raison qui sait qu'il ne va pas voler va à certains moments, par exemple, prendre du matériel de bureau? Les gens savent bien que c'est pas juste. C'est pas parce que tout le monde le fait dans le bureau que ça devient juste. Il n'y a pas que dans les bureaux. J'ai vu à l'hôpital comment facilement le personnel pouvait se servir de médicaments pour usage personnel. Ça tombe sous le sens hein, que c'est pas juste. Pourquoi des gens qui sont quelquefois vraiment chrétiens, ayant des valeurs, n'arrivent pas à résister? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, la raison capitule, si je puis dire? On arrive à dire, bon, au fond, j'ai quand même bien le droit de le faire, quelque part. Et je pense que c'est le fait que la raison ne perçoit plus ce que Jean-Paul II appelait la splendeur de la loi. Il ne perçoit plus la vérité et la bonté profonde de la loi. Il sait ce qui est conforme à la loi, il connaît les commandements, mais il n'en voit plus la beauté. Il n'en goûte plus la vérité profonde. Et parce qu'il n'en goûte plus la vérité profonde, il n'a plus la force nécessaire pour résister à la séduction du péché. En définitive, la connaissance des commandements, elle est aussi liée à la connaissance de Dieu. Si on veut en avoir, si on n'a pas le sens de Dieu, on finit par perdre le sens de la loi de Dieu. On pourrait dire la même chose par rapport aux valeurs morales. On a des valeurs, mais on n'en goûte plus la beauté, la vérité, et donc elles ne suffisent plus pour animer notre action. La conscience, c'est aussi un œil. C'est un œil qui a besoin de lumière. Et donc, si la loi morale ne brille pas, à mes yeux, ma conscience, elle, même si elle sait ce qu'il faut faire, elle n'est pas suffisamment forte pour résister aux passions. On pourrait dire les choses autrement, on sait ce qu'il faudrait faire, mais on ne voit pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas si vous percevez la différence. On n'a pas l'évidence claire, pas simplement l'évidence, mais on ne perçoit plus intérieurement, avec l'intelligence du cœur, avec une conscience unie au cœur, à l'intelligence du cœur, on ne perçoit plus intimement ce qu'il faut faire. Donc la raison peut continuer à raisonner, mais en réalité son raisonnement, il est fragile. Il ne peut pas s'appuyer sur la perception de la beauté de la loi, et donc ce raisonnement fragile, et tient pas face au pouvoir d'attraction des passions. Donc à un moment ou à un autre, la raison craque. Alors, par rapport à cet état de faiblesse et d'inclination au mal inscrit dans la chair, on peut se demander qu'est-ce que fait le baptême? Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel, dit le catéchisme, et retourne l'homme vers Dieu. Nous recevons par la grâce du baptême la grâce de retrouver l'union avec Dieu. C'est notre cœur qui est rempli de la charité divine. Et donc, on pourrait dire que, à ce moment-là, par la grâce du baptême, nous avons la lumière. Nous avons la lumière de la connaissance de Dieu, normalement. Mais je vais préciser. Par la grâce du baptême, nous avons à nouveau un état d'union à Dieu. Mais cet état d'union à Dieu, il n'est vraiment source de lumière pour notre esprit et source de force. Il n'est vraiment vivifiant que quand il est vécu d'une manière actuelle, d'une manière vivante, c'est une, dans un contact, je dirais, qui suppose un éveil de notre esprit, qui est effectivement tourné vers Dieu, effectivement dans la connaissance de Dieu. Et c'est précisément cela qui n'est pas toujours réalisé. Ce qui fait que le juste pêche sept fois le jour. La charité, si vous voulez, c'est comme un feu qui doit brûler pour éclairer. Quand le feu est sous la cendre, il n'éclaire plus. Et la connaissance de Dieu, elle dépend de la charité. La connaissance de Dieu, elle est proportionnée à la charité, à une charité en acte, qui dépend elle-même de la foi et de l'espérance. Comment on peut comprendre ça plus précisément? C'est que en quoi j'ai besoin de vivre un amour brûlant pour Dieu, d'être vraiment dans un éveil de mon cœur, de ma foi, de mon espérance et de mon amour pour lui? Parce que c'est l'amour qui dispose l'esprit, qui dispose l'intelligence, qui la dilate, qui la rend capable de s'ouvrir à ce don de la connaissance de Dieu, de s'ouvrir à la lumière divine. Autrement dit, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de conseil, le don de science, sont directement en nous proportionnés à la charité. Dans la sagesse, c'est ces dispositions intérieures qui rendent mon esprit capable, donc de sagesse, capable d'accueillir capable d'entrer dans la connaissance de Dieu, c'est ça la sagesse. le don d'intelligence, de conseil, tous ces dons-là qui sont là pour permettre à notre esprit d'agir dans la lumière de Dieu, sont des dispositions qui dépendent directement de la charité. Les dons de l'Esprit Saint sont comme des prolongements de la charité. Est-ce qu'on peut préciser davantage les choses ? Et je ne vois que cette image-là, c'est l'image du feu qui, en même temps qu'il réchauffe, dilate. Dilate et rend réceptif, rend disponible, rend malléable ce qu'il dilate. Pour qu'on soit assez souple, accueillant, réceptif à la grâce de la connaissance de Dieu, à ce contact avec Dieu, eh bien, nous avons besoin de cette transformation qui s'opère par le feu de la charité divine. Qu'est-ce qui fait que le juste pêche cette fois le jour, mais précisément le fait que notre cœur s'alourdit facilement, notamment dans les soucis de la vie, et que nous ne restons pas en permanence donc tournés vers Dieu dans un acte de charité brûlant. C'est pour ça que la parole de Jésus, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Cette parole de Jésus, elle est là pour nous avertir du fait qu'il ne suffit pas d'être en état de grâce, il ne suffit pas d'être baptisé. Il ne suffit pas d'avoir au fond de soi-même la foi, l'espérance et la charité, mais qu'il faut sans cesse veiller, c'est-à-dire réveiller la grâce qui est en nous, pour ne pas entrer en tentation, parce que notre esprit peut être ardent dans ses désirs, on peut avoir de grands désirs, on peut éprouver en soi-même de grandes aspirations spirituelles. Si on n'est pas réellement en contact avec Dieu, c'est la faiblesse de la chair qui l'emporte. Il y a des personnes qui vivent leur vie spirituelle en termes d'idéal. Ils poursuivent de grands projets, ils veulent faire beaucoup pour Dieu, par ailleurs ils se nourrissent de toutes sortes de lectures spirituelles. Mais tout ça, ça ne remplacera jamais le contact vivant avec Dieu, le contact intérieur, qui fait que, de fait, notre esprit est vivifié par ce contact avec Dieu. Ce contact avec Dieu, de notre esprit à Dieu, au plus intime donc de notre âme, ce contact avec Dieu, il peut rester presque insensible, peut même d'une certaine manière nous échapper à nous-mêmes. Mais ce contact avec Dieu qui est comme le grain de sénévé dont parle Jésus, le plus petit des graines, c'est pourtant ce contact qui a la force de soulever effectivement toute notre humanité en vivifiant de l'intérieur notre esprit. Et donc, rien ne remplace la vigilance du cœur, c'est-à-dire le réveil de la foi, de l'espérance et de la charité. Pour que notre esprit soit à nouveau dans ce contact avec Dieu qui est la source de la vraie vie. Jésus dit veiller et prier. Il associe la vigilance et la prière parce que la prière est l'exercice spirituel que nous pouvons accomplir non pas par nous-mêmes, mais aussi avec l'aide de la grâce. La prière est l'action de Dieu et de l'homme, dit le catéchisme. Mais c'est l'exercice spirituel, je dirais, qui nous est offert et que nous pouvons vivre avec le secours de l'Esprit Saint qui vient prier en nous et avec nous. La prière est l'exercice spirituel qui nous permet donc de revenir à cette vigilance, qui nous permet de demeurer vigilants et aussi de sortir de notre sommeil spirituel. Et donc, au point où nous en sommes, on peut dire que le combat spirituel, c'est le combat de la prière. Si on considère les choses ainsi, que le combat spirituel, qui est la victoire de notre esprit sur toute forme d'inclination au mal, dépend donc radicalement de notre connaissance de Dieu, de notre union à Dieu, qui dépend elle-même de notre vie de prière. Et donc, de fait, on trouve beaucoup dans la littérature spirituelle de traités sur le combat spirituel qui ramène les choses à la prière. À la prière du cœur. Je ne pense pas développer un enseignement sur la prière, parce que je pense que ça vaudra la peine d'y consacrer un cours entier, enfin un semestre. Mais je voudrais juste dire ici que le combat de la prière, le combat de la prière ne peut pas être séparé, vous le comprenez bien ici, du combat de la foi, de l'espérance et de la charité, puisqu'il est là pour réveiller la foi, l'espérance et la charité. Le catéchisme dit à un moment, on prie comme on vit et on vit comme on prie. Cette petite parole éclairante. On prie comme on vit et on vit comme on prie. C'est-à-dire que le combat de la prière n'est pas séparable de notre vie, de notre manière de vivre. Le combat de la prière, il est inséparable donc de cette vigilance dans la foi, l'espérance et la charité, puisque nous savons très bien qu'à certains moments, nous prions sans prier. Qu'à certains moments, nous voulons prier, mais nous n'arrivons plus à prier. Parce que nous avons laissé notre esprit être complètement alourdi par les soucis, par exemple, ou par toute forme d'ivresse, le plaisir de la vie. Et donc le combat spirituel, il ne peut pas, en ce sens-là, se réduire au combat de la prière. Mais il faut plutôt considérer qu'en toute chose, en toute circonstance, nous devons d'abord voir comment peuvent s'exercer en nous la foi, l'espérance et la charité. On peut dire que le combat spirituel, c'est un exercice permanent de la foi, de l'espérance et de la charité. Et comme Dieu fait tout concourir à notre union à lui, qui fait tout concourir à notre sanctification, il faut partir de la conviction profonde, que tout peut être occasion d'exercer la foi, l'espérance et la charité. Si vous préférez, que tout peut être occasion de réveiller en nous la foi, l'espérance et la charité. Je prends un exemple tout simple. Je suis dans une salle d'attente et je dois patienter plus que je ne le pensais. C'est plus particulièrement quelle vertu que je peux réveiller à ce moment-là, en profitant donc de cette circonstance qui m'oblige à attendre. Quelle vertu théologale? Alors, on pourrait dire la foi, est-ce que je vais passer ou pas, hein? Mais enfin, normalement, il n'y a pas trop de doute. Hein? Mais ici, à travers la patience, l'exercice qui nous est proposé, c'est l'exercice de l'espérance. Oui. Espérer, c'est attendre ce que l'on ne voit pas. Vous allez me dire, c'est attendre ce que l'on ne voit pas, mais c'est attendre les réalités d'en haut. Mais le fait d'attendre, même quelque chose qui est de la terre, voyez, est un exercice qui peut me permettre de réveiller l'espérance. Parce qu'il y a quelque chose de commun, c'est la patience. Et donc, en fait, à travers des exercices, vous voyez, à un niveau très humain, enfin, je veux dire, sur des réalités très humaines, je peux vivre un exercice divin. Tout dépend un peu... je dirais, dans quelle perspective je vois les choses. Si c'est dans la perspective de me dire, mais comment ne pas perdre de temps, à ce moment-là, je me jette sur une revue. Ou même, éventuellement, je dis mon chapelet pour pas avoir à le dire ensuite, parce que j'aurais profité de ce temps pour régler le chapelet. Mais que je dise le chapelet ou que je lise Paris Match, si je rentre pas dans la patience, je rate l'exercice. Et donc, en fait, ici, le plus fructueux, c'est d'accepter de ne rien faire, souvent. En tout cas, dans ce genre de situation, il ne faut rien faire tant qu'on n'est pas revenu précisément dans un état d'union à Dieu. Une fois qu'on est dans l'état d'union à Dieu, on discerne ce qu'on doit faire. Mais agir sous le coup de l'impatience, c'est agir dans le brouillard, en dehors de la connaissance de Dieu, si vous me suivez bien. Donc, si vous voulez, c'est un peu un réflexe dans les circonstances de notre vie. Si nous comprenons le combat spirituel en vérité, il faut chercher d'abord ce réveil de la foi, de l'espérance et de la charité. Elles sont inséparables, ces vertus. C'est évident que je ne peux pas réveiller l'espérance sans réveiller en même temps la foi et que tout ça réveille ma charité. Mais c'est, disons, selon ces circonstances, plus ou moins l'une que l'autre. Et profiter des circonstances donc pour revenir à ce cœur de ma vie que sont les vertus théologales, qui sont dites théologales parce qu'elles relient à Dieu, encore une fois. C'est les vertus qui rendent possible ce que j'appelle la connaissance de Dieu, mais il ne faudrait pas que vous compreniez la connaissance de Dieu comme quelque chose qui serait de l'ordre de l'intellect. Hein. C'est la connaissance de Dieu comme contact avec Dieu. C'est l'union à Dieu. Hein. C'est la sagesse. Une communion à Dieu, si vous préférez. Puisque c'est à partir de cette union à Dieu que mon esprit va pouvoir discerner ce qu'il est bon donc de faire ou de ne pas faire. Je prends un autre exemple. Je rencontre une personne qui est manifestement un peu déséquilibrée psychologiquement, qui à un moment où je suis plutôt pressé et qui se met à parler. Où est l'exercice ? C'est-à-dire de charité, hein, mais qui va s'exercer pratiquement dans une écoute qui coûte, hein, une écoute qui demande la patience aussi, mais une écoute qui est un exercice difficile parce que quand on écoute vraiment, on est amené à porter quelque chose de la souffrance de l'autre. Mais si je ne commence pas par vivre cet exercice de la charité, qui réveille ma charité, à travers l'exercice concret donc de l'écoute, c'est la charité qui est à nouveau brûlante en moi, et moyennant cet exercice de l'écoute, la charité étant réveillée, je discerne ce que je dois lui dire. Mais maintenant, si je me dis avec mon esprit inquiet, je n'ai pas beaucoup de temps pour lui parler, donc on cherche tout de suite à régler le problème, en ratant la première marche qui est le réveil de la charité, c'est à ce moment-là qu'on va droit au mur. Eh oui. Et le combat spirituel, les règles ne sont pas compliquées. En dehors de Dieu, on ne peut rien faire. Et il faut toujours revenir à Dieu. Pour ça, il y a trois vertus sur lesquelles on pianote. Enfin, on pianote pas. C'est Dieu qui pianote. Nous, on essaye de suivre le mouvement. Parce que il faut penser, je le répète, que Dieu fait réellement, je dirais, dispose réellement toutes les circonstances de notre vie à cette croissance de la foi, de l'espérance et de la charité, qu'il n'y a pas Dieu ne peut pas permettre qu'il y ait des circonstances qui nous empêchent réellement de nous unir à lui. C'est contraire à sa sagesse et à sa providence. Donc c'est moi qui ne sais pas profiter, si je puis dire, de la situation. Écoutez, Saint Paul, ainsi prenez garde à votre conduite, qu'elle soit celle non d'insensé mais de sage, qui tire bon parti de la période présente. Ben, y a un moyen de tirer bon parti de toute circonstance. Ça suppose d'être pleinement convaincu que tout dépend d'abord de notre union à Dieu, c'est-à-dire d'être pleinement convaincu du primat du royaume de Dieu. Et c'est le corollaire, pleinement convaincu qu'en dehors d'un état d'union à Dieu, ce n'est pas la peine de faire quelque chose puisque ça ne sert à rien. Sans la charité, je peux vendre, je peux donner tous mes biens en aumône, dit saint Paul, ça ne sert de rien. Quoi que je fasse, même si l'action est très généreuse, même si mon esprit arrive à mener à bien quantité d'apparentes bonnes œuvres, sans la charité, je ne suis rien et je ne sers de rien. Parce qu'il manque Dieu. Il manque le contact avec Dieu. Et donc ici, il faut... ce dont nous avons besoin, c'est d'une sagesse. Est-ce que votre conduite soit non pas celle d'insensé, mais de sage. De sage, c'est-à-dire de personne qui voit le vrai sens de la vie et la vraie profondeur du combat. On pourrait dire la même chose par rapport à toute une forme d'exercice des vertus. On peut certes arriver à acquérir un certain nombre de bonnes habitudes, entre guillemets, on peut arriver à, je dirais, travailler sur sa personnalité psychologique. Mais s'il manque l'union à Dieu, en définitive, il n'y a pas de changement profond, puisque la racine de la vie, c'est le cœur, la racine des actes, c'est le cœur, et que si l'intérieur n'est pas vraiment purifié, comme dit Jésus, hein, vous purifiez l'extérieur, mais pas l'intérieur, nos vertus, elles sont jamais véritables. Sens que si elles ne sont pas animées par la charité divine et vécues dans la sagesse, nos vertus ne peuvent pas aboutir à des actions qui soient vraiment justes. C'est d'ailleurs comme ça que saint Thomas d'Aquin démontre que toutes les vertus dépendent de la charité qui est appelée la mère des vertus, parce que sans la charité, il n'y a pas la sagesse, et sans la sagesse, il n'y a pas de vertu véritable. Faites cette expérience. Vous voulez prier. Vous venez dans l'église en disant, enfin, il faut que je prie. Et plus vous dites, il faut que je prie, et moins vous priez. Et en réalité, on peut bien faire des exercices. On peut rester une heure, deux heures devant le Saint-Sacrement, mais en réalité, il ne se passe rien parce qu'on a raté la première marche, qui est celle de notre ouverture de cœur. Par le réveil de la foi et de l'espérance, qui laisse s'épanouir la charité en nous. Plus que sur toute chose, veille sur ton cœur, dit le livre des Proverbes, car c'est de lui que jaillit la vie. Donc, cette vigilance par rapport à notre cœur, cet exercice continuel de la foi, de l'espérance et de la charité, mais vécu non pas simplement comme un exercice de la prière, mais aussi comme un exercice qui trouve comme matière les circonstances concrètes de notre vie. C'est cela donc qui va nous occuper dans cet enseignement. Je voudrais, donc avant de conclure cette première partie du cours, qui donnait un peu les grands principes, je voudrais ramener les choses dans un autre langage à l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, en définitive, c'est l'Esprit de vérité qui rend possible la vision de Dieu. Et donc, si vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire jusqu'ici, nous avons que deux choses à faire, c'est à savoir accueillir l'Esprit Saint par la foi, l'exercice de la foi, de l'espérance, qui sont l'ouverture de notre cœur au don de l'Esprit, on peut dire aussi par l'exercice de la charité, et savoir se laisser mener par ce même esprit, c'est ça, demeurer vigilant, pour que ce soit l'Esprit Saint qui nous guide, qui nous inspire et qui nous meuve. Donc à ce moment-là, la question du combat spirituel, c'est la question de l'accueil et de la docilité à l'esprit, qui est notre véritable défenseur, et notre seul défenseur contre les puissances du mal, le paraclet. Paraclet, ça vient d'un mot grec qui veut dire celui qu'on appelle au secours. Donc celui qu'on appelle au secours contre les esprits mauvais, c'est l'Esprit Saint qui est comme un feu, qui met en fuite le malin et qui, en même temps, donc, est source de lumière pour notre esprit, de telle manière que nous ne nous laissions pas enténébrer par le prince des ténèbres. Quand Jésus dit dans l'Évangile, c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint. J'ai été très, très frappé du témoignage d'un exorciste que j'ai bien connu, qui me disait que c'était très important pendant l'exorcisme de regarder avec amour la personne possédée. Parce que ce regard d'amour est comme un feu brûlant qui fait fuir le malin. Mais vous voyez, là aussi, l'exorciste qui voudrait simplement, je dirais, user de son autorité, autorité qu'il tient de l'évêque pour chasser le démon, sans vivre lui-même dans la foi, l'espérance et la charité, en fait, il ne va pas loin. Parce que c'est pas les pouvoirs ou les charismes qui l'emportent sur le malin, mais à proprement parler, c'est toujours l'union à Dieu. Et aussi, ce que j'ai eu l'occasion de remarquer, c'est des personnes qui sont très attaquées par le malin et qui recourent à toutes sortes de prières de délivrance, parler de choses très concrètes, mais qui négligent la conversion du cœur, le malin sort par une porte et rentre par une autre. Alors, il faut bien comprendre que tout dépend et dépend uniquement en réalité de la profondeur de notre union à Dieu. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Donc vous voyez, il y a un danger certain à vouloir à se crisper, par exemple pour pouvoir acquérir des vertus, pour sortir de tel ou tel vice, mais en le faisant, en étant trop, je dirais, axé sur l'acquisition de la vertu elle-même. Ou par exemple, le fait d'arriver à réaliser telle ou telle œuvre pour l'Église. Par exemple, d'arriver à réaliser une bonne formation pour les fiancés. Un bon discours. Et de négliger en même temps l'état de foi, d'espérance et de charité dans lequel on est. Il peut se faire que notre action, apparemment, tout est bien huilé et tout tourne bien, mais en réalité, tant que la foi, l'espérance et la charité ne sont pas réveillées dans nos cœurs, le malin, il s'amuse. Et un peu comme ça, croire faire beaucoup pour Dieu et pour les autres, et en réalité, encore une fois, comme le dit saint Paul, être amené à reconnaître avec le temps que sans la charité, une charité vive, éveillée, qui me maintient uni à Dieu, sans la charité, ce que je fais ne sert de rien. Voilà, c'est cette vérité-là dont il faut arriver à se pénétrer, mais pleinement. Pour ne pas nous laisser tenter de vaincre par nous-mêmes. Parce que là où on croit pouvoir vaincre par nous-mêmes, il n'y a plus de place pour l'Esprit-Saint. Plus de place pour la grâce, tout simplement. Et c'est la vertu de foi et d'espérance qui sont étouffées en nous, par cette prétention à pouvoir faire du bien, à pouvoir aider, à pouvoir travailler aux œuvres de Dieu, sans passer par la porte étroite de la foi. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Demandent les Juifs à Jésus, et il leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé.